Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce mardi 26 septembre 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Mes collègues vous présenteront ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Les forces armées iraniennes ont le doigt sur la gâchette pour contrer les complots ennemis, a déclaré le chef d'état-major des forces armées iraniennes. L'occupation israélienne a bombardé un observatoire de la résistance palestinienne à l'est de la ville de Gaza. Et au lendemain de l'annonce par la France du retrait de ses troupes du Niger, les États-Unis et l'Allemagne pourraient retirer leurs forces du pays. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bareri, a averti que les forces armées iraniennes sont prêtes à agir face à l'ennemi sur le champ de bataille. L'état de préparation est un concept familier pour notre personnel armé, c'est-à-dire qu'à chaque instant, nous avons les mains sur la gâchette et les yeux sur l'écran radar, ainsi que des équipements de surveillance et de renseignement afin qu'aucun complot ne soit organisé contre le pays et que les ennemis ne cherchent pas à lancer une agression et porter atteinte à notre sécurité, a fait savoir le haut commandant militaire iranien. La puissance des forces armées fait qu'aujourd'hui les ennemis n'osent pas envahir l'Iran et qu'ils n'y pensent même pas, a martelé le général iranien avant de souligner que les forces iraniennes étaient prêtes à sacrifier leur vie pour la défense de la patrie. Lors de la 67e session ordinaire de la Conférence générale de l'AIOA à Vienne, lundi 25 septembre, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, AIOA, Mohammad Eslami, a affirmé que la République islamique d'Iran était en droit de réagir à l'arrogance d'Israël, avant de préciser que le silence de la communauté internationale avait enhardi le régime israélien. Il est clair que la République islamique considère qu'elle a le droit de répondre à l'impertinence du régime sioniste, a déclaré le chef de l'AIOA. Ces remarques interviennent quelques jours après que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prétendu à l'Assemblée générale des Nations unies que la République islamique devrait faire face à une menace nucléaire crédible. Mohammad Eslami a déclaré que les menaces d'Israël contre les scientifiques nucléaires iraniens constituaient une violation du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de la Charte des Nations unies. La République islamique d'Iran entend qu'initiatrice du plan de création d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, exprime sa préoccupation concernant le programme nucléaire militaire et secret du régime sioniste, a-t-il fait savoir. Le régime sioniste n'a pas placé son programme nucléaire sous l'accord de garantie et par conséquent, il est considéré comme étant une menace à la paix et à la sécurité internationale, a-t-il dit, soulignant qu'Israël a mis en danger l'intégrité et la crédibilité du traité de non-prolifération, TNP, et de l'AIOA. Le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a mis l'accent lors d'un entretien lundi 25 septembre avec le nouvel ambassadeur d'Iran à Erevan, Mehdi Sobhani, sur la nécessité d'une communication active entre son pays et l'Iran dans les circonstances régionales difficiles qui prévalent actuellement. Faisant référence à son dialogue fiable avec le président iranien Ebrahim Raisi, Pachinian a déclaré qu'il ouvre la voie à un renforcement durable de la coopération entre les deux pays, a indiqué son bureau dans un communiqué de presse. Il a également félicité Sobhani pour sa nomination à ce nouveau poste, exprimant l'espoir que les relations entre les deux pays continueront à se développer et à se renforcer pendant le mandat de l'ambassadeur. Sobhani a pour sa part réaffirmé, une fois de plus, le soutien sans équivoque de l'Iran à l'intégrité territoriale de l'Arménie. La partie iranienne a exprimé son inquiétude quant à la situation humaine dans la région contestée du Haut-Karabakh, affirmant que la sécurité et les droits des Arméniens vivant dans cette région doivent être garantis. Le diplomate iranien a ajouté que la République islamique souhaite développer ses relations avec l'Arménie dans tous les domaines. Les deux parties ont également discuté d'un éventail de questions d'intérêt commun, notamment de la mise en œuvre de plans communs dans des domaines tels que l'économie, le commerce, le développement des infrastructures, la santé, l'éducation, la science et la culture. L'occupation israélienne a bombardé lundi soir un observatoire de la résistance palestinienne à l'est de la ville de Gaza. Selon la chaîne d'information libanaise Al-Mayadin, les forces d'occupation israéliennes ont lancé au moins 2 missiles sur le Bridge Guardian à l'est du district de Zaitoun, à l'est de la bande de Gaza. Aucune victime n'a été signalée. Cette frappe de drone israélienne a été menée pour le 4e jour consécutif sous prétexte du lancement de ballons incendiaires vers des colonies sionistes de Gaza. Les institutions sécuritaires et militaires reconnaissent que nous nous dirigeons vers une escalade dans la bande de Gaza. C'est pourquoi un autre bataillon a été renforcé dans la brigade de Gaza à la veille de la fête de Yom Kippour, a déclaré Itai Blumenthal, correspondant des affaires militaires de la chaîne publique israélienne Kan. Au lendemain de l'annonce par la France du retrait de ses troupes du Niger, les États-Unis disent vouloir étudier toutes les mesures envisageables concernant leur présence militaire. La Bundeswehr allemande pourrait-elle aussi se retirer du pays? Washington va étudier toutes les mesures futures concernant sa présence militaire au Niger, a déclaré lundi 25 septembre le secrétaire américain à la Défense après l'annonce de la France du retrait de ses troupes du pays d'ici la fin de l'année. Tout en donnant une chance à la diplomatie, nous continuerons également d'étudier toutes les mesures futures qui donneront la priorité à nos objectifs à la fois diplomatiques et sécuritaires, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lors d'une conférence presse dans la capitale kényane, Nairobi, où il est en visite. Dimanche soir, le président français Emmanuel Macron avait annoncé le retour à Paris de l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité, dans les prochaines heures, et le retrait du Niger des 1500 troupes françaises basées dans le pays d'ici la fin de l'année. Deux exigences des militaires ayant pris le pouvoir le 26 juillet au Niger. À Nairobi, le secrétaire américain à la Défense a refusé de commenter les annonces de Paris. « Nous n'avons apporté aucun changement significatif au positionnement de nos forces et nous souhaitons réellement une solution diplomatique, une issue pacifique », a dit Austin, dont le pays dispose de quelques 1100 soldats stationnés au Niger. Le mercredi 20 septembre, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, annonçait pour sa part que le départ des soldats allemands se poserait si les troupes françaises quittaient le Niger. Une centaine de militaires allemands sont actuellement déployés avec des troupes françaises sur la base aérienne nigérienne de Niamey, dont certains sont affectés à une mission de coopération avec le Niger, mais aussi dans la formation de l'armée nigérienne. La Corée du Sud a lancé mardi 26 septembre son premier défilé militaire à grande échelle depuis une décennie avec des armes allant des missiles balistiques aux hélicoptères d'attaque qui devraient traverser Séoul dans une démonstration de force alors qu'elle adopte une position plus dure contre la Corée du Nord. Le défilé marque la journée des forces armées du pays, qui est généralement plutôt discrète par rapport aux événements massifs organisés par le Nord sous la direction de Kim Jong-un, et qui comprennent des armes stratégiques telles que des missiles balistiques intercontinentaux, ICBM. Dans un discours prononcé à la base aérienne de Séoul, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a mis en garde Pyongyang contre l'utilisation d'armes nucléaires et s'est engagé à accroître son soutien à l'armée et à l'industrie de défense. Si la Corée du Nord utilise des armes nucléaires, son régime sera stoppé par une réponse massive de l'alliance sud-coréenne-américaine, a déclaré Yoon en s'adressant aux troupes rassemblées. L'événement d'une journée réunira des milliers de soldats, des chars et de l'artillerie automotrice sud-coréens, ainsi que des avions d'attaque et des drones, rejoints par 300 des 28 500 soldats américains basés dans le pays, a indiqué le ministère de la Défense sud-coréen. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Jeux olympiques de Paris 2024, le port du voile interdit pour la délégation française. pour les Jeux olympiques de Paris 2024, le gouvernement français persiste dans sa politique d'acharnement contre les femmes musulmanes en interdisant le port du voile aux athlètes françaises pendant la compétition. Une surenchère islamophobe, alors même que le Comité international olympique autorise le port du voile. Interrogé sur les athlètes voilés lors de l'émission « Dimanche en politique », Amélie Oudéa-Castéra, la ministre française des Sports, a fait savoir que les Françaises ne porteraient pas le voile lors des Jeux olympiques de Paris, lesquels se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024, en rappelant la position du Comité international olympique, CIO. La position du gouvernement français n'est en revanche pas celle du Comité international olympique. Une manière de poursuivre, au nom de la laïcité, l'acharnement islamophobe du gouvernement contre les femmes musulmanes dans la droite lignée de l'interdiction de l'abaya à l'école. Une décision qui s'inscrit également dans la continuité de la décision du Conseil d'État en juin dernier, en réponse à une saisie du collectif Les Hijabeuses, maintenant l'interdiction du voile dans les compétitions organisées par la Fédération française de football. Cette décision intervient alors que la Fédération internationale de football, FIFA, a retiré depuis plus d'une décennie son interdiction de porter le voile. Lors de la Coupe du monde féminine 2023, disputée en Australie et en Nouvelle-Zélande, la Marocaine Nouaïla Benzina est ainsi devenue, le 30 juillet, la première joueuse de football voilée à disputer un match de Coupe du monde féminine contre la Corée du Sud. Cette nouvelle attaque s'inscrit dans une longue histoire de comportements sexistes concernant le code vestimentaire imposé aux femmes dans les compétitions sportives. La rentrée 2023 a été marquée par l'acharnement islamophobe du gouvernement français, qui cherche à stigmatiser, marginaliser et réprimer les musulmanes dans la continuité de la répression des manifestations qui ont suivi l'assassinat de Naël, et plus largement, de la longue histoire coloniale de la France. Alors que de nombreuses organisations ont demandé le retrait de l'interdiction des abayas lors de la marche du 23 septembre contre le racisme systémique et les violences policières, toutes les organisations syndicales et politiques devraient s'engager dans la lutte contre l'islamophobie.
Bonjour à tous, vous êtes avec nous dans cette émission du débat. Le sujet du jour étant la reprise des propos du président Ebrahim Raïssi lors de l'Assemblée générale de l'ONU concernant l'arrêt donc du fait de brûler les Corans, les textes saints. C'est notre sujet du débat. Il a proposé de faire un mouvement donc international que Presse TV donc suit, un mouvement général pour empêcher à ce que de nouveau des Corans soient brûlés ou utilisés à des fins politiques. Tout de suite donc, je vous propose un reportage qui vous résumera la situation, les propos tenus par le président iranien Ebrahim Raïssi et par donc ce mouvement proposé notamment par la chaîne iranienne Presse TV.
À la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président iranien Ebrahim Raïssi a condamné la profanation du Saint-Coran au début de cette année en Suède et au Danemark. Le noble Coran a interdit l'affront aux idées et aux croyances, a-t-il rappelé, demandant « qu'est-ce qui définit l'humanité et élève les valeurs humaines mieux que la parole du Dieu Tout-Puissant ?» Ce n'est pas la première fois qu'ils brûlent les paroles de Dieu et supposent qu'ils ont étouffé pour toujours la voix du ciel. mais les enseignements coraniques destinés aux communautés humaines ne brûleront jamais et les flammes de l'insulte ne brûleront jamais. La distorsion ne sera pas à la hauteur de la vérité. L'islamophobie, quelle qu'en soit la forme, qu'il s'agisse de brûler le Saint-Coran ou d'interdire le code vestimentaire islamique dans les écoles, équivaut à un discours de haine. Derrière ces actes d'incitation à la haine se cache une intention plus vaste. Elle est reléguée au rang de la liberté d'expression et trompeur, a averti le président Raisi. Le président iranien a déclaré que le monde musulman n'oublierait jamais le récent acte de sacrilège contre le Saint-Coran dans un pays occidental. Raisi a également déclaré que les jeunes devraient réaliser comment ceux qui prétendent défendre la liberté d'expression ont commis avec arrogance un acte blasphématoire contre les saintetés musulmanes. Ils mentent et ne soutiennent pas la liberté d'expression et d'opinion. Ils s'opposent à la liberté et cherchent à imposer leur despotisme sous la forme de la liberté d'expression à l'humanité. Le Coran est une manifestation de la liberté qui enseigne l'humanité, mais ceux qui insultent les saintetés sont contre la liberté d'expression.
Tout de suite, donc, la venue de nos deux invités. Tout d'abord, nous commençons par M. Amrouni, un de nos experts politiques. Bonjour, M. Amrouni, ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous.
Bonjour à vous, à toute votre équipe, à votre invité, ami.
Merci, M. Amrouni. Deuxième invité étant M. Ahmad Rami, notamment un de nos experts, concernant notamment l'islam, étant ancien président de Radio Islam en Suède. Bonjour, M. Rami. Ravi de vous avoir avec nous.
Bonjour et bonjour à M. Amrouni et à vos auditeurs aussi.
Alors, tout de suite, M. Amrouni, nous allons directement dans le vif du sujet. Alors, le président Ebrahim Raisi, président iranien de la 13e gouvernement après la révolution, a invité à faire un mouvement et de demander l'arrêt de l'utilisation du Coran comme un acte politique où se mêle la liberté d'expression. Il demande à l'arrêt de se donner l'autorisation de brûler un livre saint pour au moins 24% de la population, puisqu'en 2015, on dénombrait 1,8 milliard de musulmans dans le monde, notamment extrêmement présents en Russie, au Maghreb, en Afrique, en Asie, que ce soit l'Inde ou même le Singapour. En Europe, l'Allemagne, la France ou encore le Royaume-Uni dénombrent un important nombre de musulmans. Donc on ne parle pas d'une petite communauté, d'un seul pays ou la volonté d'un seul pays, mais de plusieurs pays et leur population. Monsieur Amrouni, qu'en pensez-vous des propos tenus par le président Raisi lors de son allocution ?
Oui, le président Raisi, il a fait un très beau discours, un discours raisonné, raisonnable, mais ferme, comme on l'a dit. Et en évoquant la profanation du Saint-Coran et l'islamophobie en général dans le monde, véhiculée par l'Occident et surtout par le lobby sionisme international, fait que le fait que le président Raisi, en ce moment-là, il choisit de parler du Saint-Coran en disant « c'est le Coran qui appartient à tous les croyants, c'est un livre saint, c'est un livre qui… incite sur la liberté de la croyance, sur la dignité humaine, et donc le fait de brûler ce Coran, c'est un acte de discrimination, c'est un acte criminel et c'est un acte inhumain. Donc le président Raisi montre la voie de l'islam, la voie du Saint-Coran, mais aussi défend les principes fondateurs donc, de la communauté de la nation islamique dans le monde, et que la nation musulmane aujourd'hui, elle est puissante, elle est forte et elle a les moyens de stopper et de lutter contre l'exil et contre l'islamophobie dans le monde.
Merci, M. Amrouni. M. Rami, en effet, comme vient de le souligner M. Amrouni, M. Raisi a souligné et a indiqué le mot « humanité ». Donc le fait que le Saint-Coran représentait et était une part de l'humanité, proposait la paix de l'humanité également. Donc il a mis en contre-indication donc, la liberté d'expression, vous-même ayant été ancien président d'une chaîne radiophonique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que finalement on doit délimiter la liberté d'expression? La liberté d'expression doit englober le respect culturel, le respect religieux des différentes communautés internationales.
Oui, le discours du président Raisi, président de l'Iran, a résumé l'attitude de toute la nation islamique et de tous les musulmans. Mais comme j'habite moi-même en Suède, il faut quand même ne pas tomber dans la propagande sioniste qui veut créer une guerre entre l'islam et le christianisme. Il faut savoir que ceux qui ont brûlé le Coran en Suède ne sont pas des Suédois. Il n'y aura jamais un Suédois qui va brûler le Coran en Suède. Ceux qui ont brûlé le Coran et que le font jusqu'à présent, ce sont deux agents du Mossad qui habitaient en Irak et qui se camouflent comme chrétiens, mais en fait ce sont des sionistes, c'est-à-dire des agents d'Israël, et non pas des Suédois. Le Coran, c'est en réalité le drapeau de toute la nation islamique. Le drapeau, c'est un symbole d'une nation, de la nation islamique, et le Coran donc c'est un symbole. Et s'attaquer à un symbole, c'est comme s'attaquer à un drapeau d'un pays, d'une nation, le drapeau. Même si le drapeau n'est que en réalité comme le papier du Coran, comme un tissu, mais en lui-même, c'est un symbole de toute une nation. Donc, c'est s'attaquer à la nation. Et c'est ces gens-là qui se sont enfuis de l'Irak, deux Irakiens qui se camouflent, deux agents de Mossad qui se camouflent en chrétiens et qui viennent de l'Irak. Ces deux personnes-là, ce sont des terroristes qui ont essayé d'ailleurs de foutre la pagaille et le désordre en Irak. Et quand ils n'ont pas réussi, le Mossad les a envoyés en Suède. Donc, ils veulent créer maintenant, tromper les gens et dire que les Suédois brûlent le Coran. Mais en fait, ce n'est pas les Suédois qui brûlent le Coran, ce sont des agents du Mossad.
Merci, monsieur.
Ce conflit...
Merci, monsieur Amrouni. Monsieur Amrouni, quand on regarde les propos tenus donc par le président Ebrahim Raisi, on voit quand même un discours beaucoup plus international qui va au-delà donc, de l'acte provoqué à plusieurs reprises en Suède. On a l'impression qu'il veut que ce soit donc une règle étatique à tous les pays, puisqu'il s'est adressé à l'ONU, il s'est adressé à tous les pays, à tous les représentants de leur pays, musulmans ou non musulmans, comme quoi la liberté d'expression, et en mélangeant donc le fait d'arrêter d'utiliser le Coran comme symbole politique et en y mélangeant la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez que c'est une invitation aux pays internationaux d'en faire une règle étatique du respect des textes religieux, quelle que soit la religion ?
Bien sûr, le président Raisi, c'est une personnalité politique. Il représente le peuple iranien, mais aussi le symbolisme d'un savant musulman. Il ne faut pas oublier que M. Raisi, c'est un grand savant musulman. Donc, il parle en tant que président, sa fonction politique, mais aussi en tant que savant musulman. Et le symbolisme, il est très fort. Le mouvement, il est très fort. L'endroit, il est très fort. Donc, il demande aux responsables du monde, en fait, de respecter donc le Saint-Coran, de respecter le symbole de la nation musulmane, mais au-delà, c'est-à-dire d'avoir des actes réels en légiférant donc, des lois qui interdisent ce sorte de manipulation ce sorte d'action. Je comprends M. Rami lorsqu'il dit que ce ne sont pas des Suédois, mais malheureusement, brûler le Coran, on a commencé à le brûler aux États-Unis, d'abord il y a quelques années, au Danemark, au Suède, par des Européens, par des Américains, et par fous, donc irakiens, manipulés par les agents secrets de Mossad, de la CIA, etc. Parce que malheureusement, l'islamophobie, c'est quoi ? L'islamophobie, c'est un outil important de déstabilisation de toute société. Aujourd'hui, en France, il y a 10 millions de musulmans qui vivent très bien en France, malgré tous les problèmes. Hein, malgré tout le problème, il n'y a pas de problème. Mais il y a une minorité des sionistes véhiculés par des lobbies sionistes, par des agents de renseignement américains qui manipulent donc l'opinion publique française ou allemande ou britannique ou ailleurs, car la population européenne, elle n'est pas raciste. C'est ça qu'il faut noter. Elle n'est pas xénophobe. La preuve, elle a accepté d'accueillir au-delà donc, de leur culture, de leur appartenance, presque 30 à 40 millions donc, de musulmans en Europe. Donc c'est un acte d'hospitalité. Et dernièrement, le pape, donc à Marseille, il y a quelques jours, il a fait une déclaration très intéressante, très importante, dans l'importance d'accueillir les émigrés et de respecter la différence culturelle. Donc l'Europe n'est pas raciste, l'Europe n'est pas islamophobe. Il y a une minorité qui manipule l'opinion publique pour des intérêts politiques.
Merci, M. Amrounieh. M. Rami, alors on sait que la mondialisation ne vient pas, de seulement donc, l'Asie ou l'Afrique. La mondialisation est d'abord venue du monde occidental. C'est un état de fait. Et maintenant, cette mondialisation est en train de changer. C'est-à-dire le domaine des pouvoirs est en train de changer du fait de la crise économique, du fait que les pays émergents veulent devenir des entités avec une souveraineté importante qui se fait autant écouter que le monde occidental. Alors, est-ce que c'est aussi une manière de la part du président Ebrahim Raisi d'indiquer que plus de cette expression contre le Coran ne pourrait que faire un séparatisme entre les mondes?
Non, mais il faut savoir que dans le monde, ça prend aux États-Unis, en Suède, en France, partout, il y a le vrai pouvoir, c'est le pouvoir sioniste, le pouvoir juif sioniste. Ce sont eux qui dominent et qui décident ce qui va se passer dans ces pays. Et moi, j'ai été condamné à 6 mois de prison, pas parce que j'ai brûlé un livre sacré ou que j'ai brûlé un drapeau, mais parce que j'ai critiqué Israël. Donc, il y a des limites dans ces pays, des limites par la loi. On peut tout critiquer, tout brûler, sauf tout ce qui touche à Israël. Voyez. Donc, c'est ça, il faut voir que on dit le mot mondial, le pouvoir mondial, quand on a peur de dire le pouvoir sioniste. Ce n'est pas le pouvoir mondial, il y a le pouvoir sioniste israélien. Les États-Unis, aujourd'hui, sont occupés par Israël. La France est occupée par Israël. La Suède est occupée politiquement, j'ai dit, par Israël. Donc, c'est une occupation, bien sûr, mondiale. Israël est une occupation mondiale, occupe les plus grandes puissances. Les États-Unis, par exemple, c'est l'AIPAC qui domine, c'est l'AIPAC qui gouverne. En France, c'est le lobby sioniste, le dîner du CRIF, vous le savez, vous le connaissez. Donc, tout là, il y a des... Ce que le président demande, c'est déjà fait en Occident, c'est-à-dire il y a, bien sûr, le peuple, les peuples ne sont pas racistes, ne sont pas contre l'islam, mais il y a là le plus grand problème, c'est le problème palestinien. Et le sionisme occupe la Palestine, et donc, parce qu'ils occupent la Palestine militairement, parce qu'ils occupent les États-Unis politiquement, ils occupent la France, ils occupent la Suède, ils occupent l'Angleterre. Donc, il faut dire les choses, il faut dire les vrais mots. Il faut pas se cacher derrière les mots. Il y a le pouvoir sioniste mondial et non pas du mondialisme. Voilà.
Merci, Monsieur Amrouni. Que pensez-vous donc des propos que j'ai tenus concernant donc cette volonté parce que Ibrahim Raïssi, dans son discours, est reparti vers le fait qu'il ne devait pas y avoir un bloc ouest-est. Et dans ce discours, il y avait également donc la partie de la communauté musulmane dans le monde, du fait qu'en s'en prenant donc au courant, forcément, il y a un séparatisme qui se fait, puisque des pays musulmans, on en compte beaucoup. Encore une fois, je répète, 24% de la population à l'époque, en 2015, était musulmane. On sait que ce chiffre a grossi, puisque la démographie est très importante du côté des communautés musulmanes. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une manière du président Raïssi d'avertir le monde de cette forme de séparatisme qui pourrait exister ?
Bien sûr, elle existe réellement. Il faut rappeler que le monde musulman était sous occupation directe. Grandes puissances françaises, britanniques, espagnoles, italiennes, allemandes, et après américaines, les guerres des États-Unis, les dernières guerres des États-Unis contre les musulmans. Les millions de musulmans qui sont morts, qui les a tués? Pourquoi on les tue? Pourquoi on occupe l'Irak, l'Afghanistan? Pourquoi on fait la guerre dans le Pakistan, en Libye, en Algérie il y a quelques années et ailleurs? Donc c'est une... c'est une honte pour l'Occident de continuer à traiter les musulmans de sous-hommes. Parce que c'est ça la réalité. La réalité, qu'il y a une culture dominante, une culture de l'homme blanc qui domine le monde, une culture matérialiste qui domine le monde au nom du progrès. Et donc, en face, il y a le Saint-Coran. C'est pour cette raison, l'acte de brûler le Coran, c'est un acte symbolique du démasquement du mouvement maçonnique, parce qu'on n'a pas parlé, on parle de sionisme, mais pour moi, le réel pouvoir, il est dans le mouvement des maçons. La forme et l'acte de brûler le Coran, c'est un acte de symbole. Ils envoient un symbole, car le Saint-Coran représente l'antithèse de l'Occident matérialiste. Et donc, le président Raïssi, lorsqu'il prend le Saint-Coran et il le pense, c'est-à-dire d'abord, il montre qu'il est fier d'appartenir à la nation coranique et que le Saint-Coran représente l'avenir. C'est pour cette raison qu'il a fini son discours par dire « Nous sommes l'avenir du monde ». Ça, c'est très important lorsqu'il parle aussi du sauveur du monde, l'imam al-Mahdi, alayhi salam. C'est très fort le discours du président Raïssi. Nous sommes l'avenir du monde. L'avenir du monde se résume dans le Saint-Coran et l'avenir du Messie, l'imam al-Mahdi, alayhi salam.
On rappelle, excusez-moi de vous interrompre, on rappelle aux éditeurs que l'avenir du Messie et du Mahdi est annoncé dans les trois religions monothéistes, que ce soit chez les chrétiens, les musulmans ou même les juifs. Excusez-moi, je vous en prie.
Bien sûr, c'est le symbole, c'est-à-dire le Saint-Coran appartient à tout le monde. Le Saint-Coran, il fait partie du patrimoine humain, il fait partie du code génétique humain. Donc le Coran, on le brûle. Comment ? On le brûle lorsqu'on le met en dehors de la vie quotidienne de l'humanité. On veut que le Coran soit un livre muet. Le président Raïssi, il dit non, le Coran c'est un livre vivant. Et donc nous avons la possibilité de le mettre en action. C'est-à-dire le gouvernement islamique en Iran, la République islamique, la révolution islamique, tous ces actes sont venus de l'apprentissage du Coran, en fait. Et donc, le symbolisme, il est très fort dans son discours. Il a évoqué beaucoup de choses. Et donc, l'islam d'aujourd'hui, l'islam moderne, c'est un islam qui appartient au Saint-Coran, il appartient à la nation humaine. Ce n'est pas simplement aux musulmans. Donc, séparer les musulmans du progrès, séparer les musulmans de leur Coran, séparer les musulmans de la modernité, donc, ça, c'est une déformation des sionistes et surtout des mouvements maçonniques dans le monde. Donc aujourd'hui, les musulmans résistent, le symbole de la résistance, c'est le Saint-Coran et les grands combattants sur la ligne du Saint-Coran, comme le général Qasem Soleiman.
Merci, Monsieur Amrouni. On rappelle que d'ailleurs, Presse TV a lancé donc un mouvement, un hashtag, pour pouvoir empêcher de nouveau à ce que le Saint-Coran soit brûlé au niveau international, parce que bien sûr, les propos de Monsieur Raïssi ne touchaient pas seulement la Suède. Monsieur Rami, qu'est-ce que vous en pensez des propos tenus par Monsieur Amrouni? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les musulmans doivent s'unir, mais que le monde qui n'est pas musulman doit accepter aussi cette communauté qui existe depuis très longtemps maintenant?
Le monde est aujourd'hui dirigé par la loi de la jungle. la loi du plus fort. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup peur de la force de la République islamique d'Iran. On n'a pas, surtout Israël a peur que la République islamique d'Iran devienne une puissance mondiale. Donc c'est l'essentiel. Et s'attaquer au Coran, c'est seulement pour camoufler le vrai visé. Il faut savoir, quand je suis venu en Suède, j'ai ouvert la radio Islam, la station Radio Islam, et j'étais soutenu par l'église suédoise, par l'archevêque de Suède, l'évêque de Stockholm. J'étais interviewé la sœur Marianne, sister Marianne, et j'étais soutenu par toute la classe politique en Suède. Vous voyez? Donc, il y avait seulement contre moi le pouvoir sioniste, et j'étais condamné pour avoir critiqué Israël. Vous voyez? Donc, il ne faut pas maintenant tomber dans le piège de la propagande sioniste et de vouloir transformer tout cela en seulement une question de symbole. Il s'attaque à des vrais points, c'est surtout s'attaquer à la République islamique d'Iran. Et c'est pour ça que le président iranien a fait un discours pour répondre idéologiquement, et il a exprimé la position de la République islamique d'Iran. Mais moi, je ne suis pas président. Si j'étais président, je me serais exprimé d'une autre façon. Vous essayez de vous exprimer diplomatiquement. Vous n'êtes ni président ni premier ministre. Moi, je suis un journaliste et je m'exprime en tant que journaliste. Il faut aussi diviser les rôles, vous voyez. Moi, je m'exprime comme un musulman, comme un intellectuel, comme un journaliste, et non pas comme un président ou un diplomate.
En tout cas, je vous remercie pour votre participation à cette émission. C'est la fin de l'émission. Je vous remercie, Monsieur Amrouni, pour votre expertise, votre analyse. Monsieur Rami, de même, merci pour la participation d'aujourd'hui à notre débat. Moi, chers téléspectateurs, je vais vous dire au revoir. C'est ici que se finit notre débat, qui donc avait pour lien, encore une fois, le discours du président de la République islamique d'Iran concernant le fait que le Coran est souvent employé comme symbole politique, alors que le Saint-Coran est sacré à une population extrêmement importante dans la population mondiale. Moi, je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à revoir ou voir nos débats sur nos réseaux sociaux ou encore notre site internet. Je vous dis au revoir, à bientôt ici, à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui a resté inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Chers auditeurs, bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui de l'émission hebdomadaire Histoire de la science en Iran, nous vous ferons découvrir l'une des figures de proue scientifiques iraniens. Restez avec nous. Mahdi Balalimud a vu le jour le 6 septembre 1942 dans la ville d'Omoud, près de Birjand, dans l'est de l'Iran. Il a terminé ses études primaires à Moud et Zahedan et ses études secondaires au lycée Chokati à Birjand en 1961. Ses études universitaires ont commencé en chimie, puis il a poursuivi son parcours à la faculté de médecine affiliée à l'université de Téhéran. En 1964, il a obtenu une licence en chimie, en 1970, un doctorat en médecine. Après avoir passé son service militaire dans la capitale Téhéran et dans sa ville natale, il a été embauché en qualité d'instructeur en médecine légale en toxicologie à la faculté de médecine de Meshed à partir de 1972. Après la révolution islamique en Iran, Mahdi Balalimoud se voit retirer sa bourse d'études, mais il ne perd pas pour autant sa motivation à approfondir ses connaissances dans son domaine de spécialisation. Au contraire, il continue ses études universitaires et obtient dans plus bref délai un doctorat spécialité en pharmacologie et toxicologie clinique en juillet 1981. En août de la même année, après avoir obtenu une spécialisation en thérapeutique et une super spécialisation en toxicologie, il a été nommé professeur adjoint à la faculté de médecine de l'université d'Edinburgh, a travaillé au département de thérapeutique et au centre de toxicologie de l'hôpital royal d'Edinburgh. En 1975, le docteur Balalimoud a été nommé professeur adjoint et superviseur du service des patients empoisonnés de l'hôpital Imam Reza à Mashhad et de 1976 à 1979, il s'est également chargé des affaires éducatives de la faculté de médecine de cette ville. En juillet 1978, il se rend en Grande-Bretagne grâce à une bourse octroyée par le ministère des Sciences pour suivre ses études spécialisées en toxicologie clinique à la faculté de médecine de l'Université d'Edinburgh. Le docteur Balalimoud est retourné à Meshed en janvier 1981 dans l'espoir de pouvoir servir son pays en pleine guerre imposée par l'Irak. Dans son sens, il a commencé ses activités professionnelles en tant que professeur adjoint et chef du département de toxicologie de l'hôpital Imam Reza, affilié à la faculté de médecine de l'université de Meshed. L'une des raisons de son retour en Iran avec sa famille était l'absence de médecins toxicologues à un moment où les médias faisaient état d'une possible attaque chimique de l'armée irakienne contre les forces armées iraniennes présentes sur le front de la guerre. Depuis le début des bombardements chimiques de l'ennemi, le docteur Balalimoud a fourni des services médicaux continus aux blessés et aux vétérans de la guerre chimique. En mai 1985, il a occupé le poste de professeur adjoint. En octobre 1991, il est devenu professeur au département de médecine interne de la faculté de médecine à l'Université des sciences médicales de Meshed. Le professeur Balalimoud a participé à la création de la faculté des sciences médicales de Birjand et est membre du conseil d'administration de la faculté à Meshed depuis 1978. Il est rédacteur en chef de la revue scientifique de l'Université des sciences médicales de Birjand depuis 2003. Balalimoud a été choisi en tant que membre du comité de rédaction du journal de l'Université des sciences médicales de Meshed depuis juin 1982 et a continué sa coopération avec cette revue jusqu'à présent. Il est membre du conseil fondateur
de l'Association de toxicologie et d'intoxication de l'Iran, a été le président du conseil d'administration de cette association de juin 1992 à octobre 1999 et de nouveau d'août 2001 à octobre 2003. Le professeur Balali Mood a travaillé en tant que membre de la commission médicale du Conseil de la recherche scientifique du pays pendant 3 ans, à partir de juillet 1990. Il a été également le secrétaire du 7e congrès de physiologie et de pharmacologie d'Iran en 1985 et du 3e congrès national d'empoisonnement en 1993. Il a par ailleurs occupé le poste de directeur des affaires internationales pour le premier congrès international de médecine sur le gaz de guerre chimique en 1989. Il a été élu membre de la Société européenne des toxicologues cliniques en juin 1984 et en août 1986 en tant que membre de la Fédération mondiale des centres de toxicologie clinique et antipoison en novembre 1994 en qualité de membre du conseil d'administration et du secrétaire de la région de la Méditerranée orientale de la dite fédération. Il travaille comme expert honoraire et consultant en toxicologie clinique de l'Organisation mondiale de la santé OMS depuis août 1986 et depuis mars 1990, il dirige plusieurs groupes de travail du projet international de toxicologie Intox de cette organisation attachée à l'ONU. Le professeur Balali Mood a été par ailleurs le membre du comité de planification sur la sécurité chimique et la toxicologie IPCS de l'Organisation mondiale de la santé de 2000 à 2010. En novembre 1980, il a été élu vice-président de la Société de toxicologie clinique en Asie-Pacifique en novembre 1994 à Taipei, la capitale de Taïwan. Il a été nommé président de cette société et occupe en ce poste jusqu'en décembre 2002. Il a été président du premier congrès international de toxicologie médicale d'Asie-Pacifique ainsi que du 5e congrès national de toxicologie et d'empoisonnement qui s'est tenu en mai 1997 à l'Université des sciences médicales de Téhéran. Il a participé en tant qu'intervenant invité à de nombreuses conférences nationales, internationales et mondiales sur la thérapeutique, la pharmacologie et la toxicologie clinique, a présidé des réunions, des groupes de travail et des ateliers dans le domaine de la toxicologie. Le professeur Balali est membre de l'Académie des sciences médicales de la République islamique d'Iran et des comités d'examen et d'évaluation des domaines spécialisés de toxicologie et d'empoisonnement du ministère de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale. En juin 1997, il a été nommé membre permanent de l'Académie mondiale des sciences TWAS, une organisation internationale autonome fondée à Trieste en Italie en 1983 par un groupe de scientifiques distingués sous la direction du regretté lauréat du prix Nobel Abdus Salam du Pakistan. En 2004, le scientifique iranien a été élu membre du conseil consultatif scientifique de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques OIAC à La Haye, aux Pays-Bas, et lors de la 5e réunion de ce conseil en 2004, il a été élu à l'unanimité en tant que vice-président de ce conseil. Il a occupé ce poste jusqu'à la fin de la période d'adhésion en août 2012. Sous le décret du vice-président de l'Université de Newcastle-upon-Tyne, le professeur Baladi Mood a été professeur invité de cette université de 2006 au 2015 et cette coopération a été prolongée jusqu'en 2018. La figure de proue scientifique iranienne a été le directeur du Centre de recherche en toxicologie médicale de l'Université des sciences médicales de Meshed de 2008 à 2017. Force est de constater que de nombreux livres de cet éminent professeur iranien dans les domaines de la chimie, de la toxicologie médicale, de la thérapeutique et des empoisonnements, dont 31 livres et monographies ont été publiés en persan et en anglais.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.